Aujourd'hui, nous allons essayer de lire la première partie de la seconde tablette que nous avons au chapitre 2 de la Genèse, à partir du verset 4, avec la formule de titre, celle-ci les générations, celle-ci les Toledotes, dont je vous ai déjà parlé hier. Donc, 2, 4, celle-ci les Toledotes, des cieux et de la terre, dans leur être créé. Quand ils furent créés, si vous voulez. Au jour du fer de l'éternel Dieu, terre et ciel, tout arbuste des champs, avant qu'il soit sur la terre, et toute herbe des champs, de la campagne, avant qu'elle germe. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y avait pas pour cultiver le sol. Et un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol, ou irriguait toute la surface du sol. Alors je traduis flot avec la grande majorité des modernes. L'autre traduction conjecturale qui a été assez répandue, c'est la traduction vapeur, nuée, brouillard, fumée. Il y a eu quelques études de ce mot, et en particulier une étude qui a été publiée dans un des Tyndale Bulletins, qui est due à l'auteur du commentaire Tyndale sur la Genèse. Ce n'est pas dans son commentaire, mais encore séparément, qu'il a fait une étude de ce début de Genèse 2. Il m'a convaincu qu'il faut préférer ici, comme par exemple la version de Jérusalem, comme Carbart aussi, etc., flot. Flot plutôt que rosée, ou brouillard, ou nuée. C'est un mot extrêmement rare dans l'Ancien Testament. Une ou deux autres références que l'on peut considérer pour essayer de trouver son sens, mais c'est bien peu pour cerner le sens d'un terme. Donc je traduis un flot. Un flot montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu façonna, c'est le verbe du potier. Le participe présent de ce verbe, c'est le mot courant pour le potier. Donc modela, façonna l'homme, poussière tirée du sol, poussière du sol, et il souffla dans ses narines une haleine, un souffle, j'ai commenté déjà ce mot hier, de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est le mot de la pêche qui est employé, mais ici, il a le sens le plus élastique, pour reprendre notre expression d'hier, le sens le plus vague possible. Finalement, le terme français qui correspond encore le mieux, c'est le mot être, ici. On ne l'emploierait pas pour un être inanimé, sauf le cadavre, comme je l'ai dit hier, mais le sens est autrement aussi large que vous pouvez l'imaginer. Un être vivant. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient ou de l'origine. Car vous pourriez comprendre aussi ce terme, je crois que le double sens est voulu, c'est un des doubles sens de ce chapitre tout entier, vous pourriez comprendre aussi dans un sens temporel. Soit dans un sens géographique, soit dans un sens temporel. Certaines versions anciennes, plusieurs versions anciennes ont choisi le sens temporel ici. Si vous voulez, le jardin originel. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il plaça là l'homme qu'il avait façonné. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol tout arbre désirable quant à l'aspect est bon pour nourriture, quant à l'alimentation. Et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance de bien et mal. un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Il me semble c'est plausible qu'il s'agisse de ce flot mentionné au départ. En tout cas, qu'il y ait une association, que le fleuve soit formé de l'eau qui jaillit, selon le verset 5 et 6. Et de là, ils se séparaient et devenaient quatre têtes, littéralement, on pourrait dire en français quatre bras. Le nom du numéro 1, du 1, Pishon. C'est lui qui circule dans tout le pays de Hawila, où se trouve l'or. Que là, l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est lui qui circule dans tout le pays de Kouch. Habituellement, dans l'écriture, c'est l'Éthiopie, bien qu'il ne soit pas absolument l'unique référence possible. Le nom du fleuve troisième, Sidekel, nous avons nous un nom correspondant, le Tigre, c'est lui qui va à l'Orient d'Assur. Le nom, je veux dire, le fleuve quatrième, lui, c'est l'Euphrate. Lui, l'Euphrate. Et l'Éternel Dieu prit l'homme et il le fit reposer dans le jardin d'Éden, plaça, si vous voulez, c'est un autre verbe de tout à l'heure, dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en ces termes, de tout arbre du jardin, manger tu mangeras. Et de l'arbre de la connaissance de bien et mal, tu ne mangeras pas de lui. Car le jour où tu mangeras de lui, tu mangerais de lui le jour où tu as mangé de lui, littéralement, mort tu mourras, mourir tu mourras. Deux fois, vous avez ce qu'on appelle la structure de l'infinitif absolu, en hébreu, d'utiliser l'infinitif du verbe avant une forme finie du verbe. C'est un moyen de souligner le sens avec la plus grande vigueur. La nuance particulière, d'ailleurs, n'étant pas précisée. Manger, tu mangeras, mourir, tu mourras. Ces deux se balancent. Parce que l'infinitif absolu se balance. Et l'Éternel Dieu dit, pas bon, il n'est pas bon, être de l'homme par lui-même, tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai pour lui une aide comme son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu façonna du sol toutes les bêtes des champs, les animaux sauvages, et tous les oiseaux des cieux, et il conduisit vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et tout nom que donnait l'homme à un être vivant, cela son nom. Et l'homme appela, proclama, donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à toutes les bêtes des champs, tous les animaux sauvages. Mais pour l'homme, et pour l'homme, il ne trouva pas d'aide comme son vis-à-vis. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il s'endormit. Et il prit l'une d'entre ses côtes, c'est le mot côte pourrait aussi, c'est pas dire côté, comme en français vous avez pratiquement le même mot, côte et côté. Et il referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu construisit la côte qu'il avait prise de l'homme en femme. Et il la conduisit vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. C'est pourquoi on dira Isha, homme, car de Ish, homme, celle-ci a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront chair une. Et tous les deux étaient ou furent, nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Ils n'étaient pas honteux. La création de l'homme et de la femme, nous avons vu qu'elle est considérée déjà dans le premier chapitre comme un trait majeur de l'œuvre divine, puisqu'à côté de la création en image de Dieu, c'est le seul fait qui soit mentionné dans le court résumé sur le sixième jour. Dans le second chapitre, nous avons la même insistance dramatique, développée encore, avec d'une part la délibération divine qui se situe non pas avant la création de l'humanité en général, mais au moment où Dieu va créer la femme comme aide qui correspond à l'homme. Cette délibération divine, c'est ce que le verset 18 nous présente. Dieu se parle à lui-même, formant le projet de former la femme. Et on peut aller encore plus loin, on peut relever que tant que la femme n'a pas été créée, la création de Dieu n'est même pas bonne. Il n'est pas bon. Alors qu'une fois la femme créée, une fois l'œuvre donc achevée, il nous sera dit que Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici bon extrêmement, comme nous avons vu au premier chapitre. Ainsi, le récit vraiment souligne de manière très insistante l'importance de la bisexualité, l'importance de la création de l'humanité en homme et femme. Comment commenter ce que le texte nous en dit après avoir ainsi insisté? Je crois qu'il nous faut d'abord remarquer que cette création homme-femme est là pour répondre aux besoins de communication, de communion que Dieu décèle en l'humanité. C'est pour briser le cercle de la solitude que Dieu va créer la femme, après le chapitre 2. La première proposition que nous avons à enregistrer, c'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et je crois qu'il faut s'arrêter, avant de considérer plus particulièrement la bisexualité, à la portée de cette formule. Il nous faut d'abord considérer l'importance pour la pensée biblique de ce qu'on peut appeler la structure de l'être pour autrui ou avec autrui, d'une manière un peu sartrienne, l'être avec de Heidegger, ce que beaucoup de modernes ont relevé avec force, à savoir que l'homme ne peut pas être considéré isolément comme un simple individu, mais n'est vraiment lui-même que dans le rapport à autrui et dans la relation au prochain. Nous pouvons affirmer, me semble-t-il, si vous voulez, en extrapolant à partir de la formule « il n'est pas bon que l'homme soit seul », que l'homme se caractérise dans la pensée biblique par une relation non seulement à Dieu, mais aussi à son prochain. C'est une vérité du personnalisme contemporain. Et il ne nous est pas difficile, me semble-t-il, de voir ici une réflexion de la situation de l'homme comme image de Dieu. Déjà dans la phrase que je viens de prononcer, au fond, je fais le rapport en disant pas seulement en relation avec Dieu, mais aussi en relation avec le prochain. Si nous avons compris que l'homme devra être considéré d'abord relationnellement, nous sommes moins surpris. Si au niveau même de sa vie terrestre, nous voyons l'homme comme un être relationnel, un être qui est d'emblée orienté vers un prochain. Je crois que nous pouvons développer encore un peu ce qui peut être le rapport de cette non-solitude de l'homme et de sa situation d'image de Dieu. Il me semble que c'est de deux façons que nous pouvons développer. D'une part, nous pouvons remarquer que Dieu lui-même n'est pas solitaire. Et que nous avons donc, dans le caractère relationnel de la vie humaine, considérée comme elle est en elle-même sur la terre, nous avons un reflet, une image de ce qui concerne Dieu lui-même. Karl Barth, en tout cas, souligne le rapport entre le pluriel dans le premier chapitre, faisons l'homme à notre image, et puis la mention ensuite, il le créa homme et femme. L'homme, non pas un individu unique et solitaire, mais en relation. Dieu lui-même parle au pluriel. Il y a une pluralité divine, une non-solitude de Dieu. Pour le Dieu unique même, ce que la doctrine de la Trinité permettra de discerner plus clairement dans le Nouveau Testament. Il me semble même que nous pouvons retrouver pour le Dieu qui suscite son image sur la terre, quelque chose du progrès dramatique du chapitre 2, ici. L'homme est établi en image de Dieu, avec cette conséquence qu'il règnera sur les créatures, et qu'il règnera par la parole. Nous le voyons installé en Éden, avec domination du jardin, et nous le voyons exercer ensuite son privilège, qui correspond à cette situation d'image de Dieu, par la parole. Il donne des noms à tous les animaux qui défilent devant lui. Et pourtant, il n'est pas satisfait, il n'est pas accompli, il n'est pas épanoui. Est-ce que nous n'avons pas le droit de dire que cela se transporte en quelque sorte, par ricochet, dans le discours qui concerne le Dieu de la Bible? Est-ce que nous ne pouvons pas dire que ce Dieu de la Bible, qui règne, et qui règne par sa parole sur sa création, ne s'est pas non plus satisfait de ce déploiement de sa puissance et de sa sagesse, mais qu'il s'est révélé selon son cœur, selon le cœur de ce qu'il est, en suscitant une communion, un partenaire d'alliance avec qui avoir communion. Il me semble que cela aussi peut correspondre à ce fait linguistique indéniable, et plus que linguistique bien sûr. Dans la Bible, il est dit que Dieu est fort, sage, etc. Mais il est dit seulement qu'il est amour, pas seulement aimant, mais qu'il est amour. Il n'y a aucune autre formule qui puisse se comparer à celle-là. Dieu est amour. La formule Dieu est lumière étant métaphorique n'a pas le même statut. Elle équivaut à un adjectif, à l'usage d'un adjectif, puisque c'est une métaphore. Et la formule Dieu est esprit, alors situe Dieu dans son mode d'être métaphysique et n'a pas donc la même portée que la formule Dieu est amour. Celle-là est unique dans l'Écriture. Il me semble que l'on pourrait dire que nous en avons un reflet dans le fait que l'homme ne s'accomplira que lorsque sa solitude sera comblée, et non pas dans le pouvoir qu'il exercera sur la terre. Et alors, vous pouvez encore trouver d'autres ricochets de réflexion, parce que je dirais que ça correspond alors aux données de l'observation courante et de ce que nous vivons chacun, au fond. On en arrive à quelque chose alors là de très existentiel et contemporain, l'insatisfaction profonde que laisse l'affirmation de soi dans l'acquisition d'un savoir et dans le maniement des techniques. Est-ce que ce n'est pas précisément ça que beaucoup de vos camarades vivent tous les jours, alors que la seule véritable expansion de l'être, de l'homme, est dans un rapport avec prochain. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors ça, c'est un premier aspect. Le deuxième commentaire que je veux faire sur ce rapport entre image de Dieu et non-solitude, c'est que il me semble que toute l'éthique biblique, sinon toute l'éthique biblique, une bonne part de l'éthique biblique, s'y rattache. Il est frappant qu'alors que l'homme est établi dans deux relations fondamentales, la relation à Dieu et puis la relation au prochain, précisément l'éthique biblique se résume en deux commandements. L'amour d'aimer Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, second commandement dont Jésus dit précisément qu'il lui est semblable au premier. Semblable au premier. Précisément, je dirais, de cette similitude qu'implique la doctrine de l'image. Et alors, je souligne un point qui a été vu par d'autres, mais beaucoup trop rarement, je trouve. C'est que la doctrine de l'image de Dieu, nous ne devons pas seulement y penser de l'homme en général, dans la création, pas seulement pour nous-mêmes, nous considérons nous-mêmes en nous disant, voilà, je suis à l'image de Dieu, mais que nous devons d'abord y penser à propos de notre prochain. Au fond, si l'homme est en image de Dieu, ça veut dire que nous allons trouver en notre prochain, sur notre route, l'image de Dieu.
c'est d'abord de ce prochain que nous devons penser qu'il est en image de Dieu. Et vous voyez comme le second commandement, alors c'est clair. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, mais Dieu est au ciel, et finalement comment lui montrer cet amour? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu nous donne son image pour que nous puissions exprimer de façon terrestre l'amour que nous avons pour Dieu, sans bien sûr qu'il y ait absorption totale. Mais il y a analogie, il y a similitude, d'où la logique que nous trouvons dans la première épître de Jean. Comment peux-tu prétendre que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que c'est ton prochain que tu vois et que tu maltraites? Voyez comment ces données peuvent s'organiser de manière, une manière que je trouve admirable. Ainsi donc, rapport extrêmement frappant entre la relation au prochain et le privilège même d'être en image de Dieu. Je crois que nous avons le droit de dire que la relation de l'homme et de la femme, c'est la relation au prochain par excellence. L'homme est pour la femme le prochain par excellence, la femme est pour l'homme le prochain par excellence. Sans discontinuité fondamentale, de telle sorte que dans Éphésiens 5, par exemple, Paul pourra nettement évoquer le commandement d'aimer comme soi-même, disant, qui aime sa femme, s'aime lui-même, son propre corps. Il y a là, vous voyez, une continuité. Alors, quels sont les éléments fondamentaux que nous pouvons relever dans la relation homme-femme, selon les textes que nous avons surtout? Premier point qui me semble mettre en valeur, c'est qu'il y a similitude, communauté, front commun. C'est une insistance très marquée du texte. Dans le premier chapitre, il y a, je crois, cette suggestion par la présence dans le même verset 27 des deux formules que la femme participe comme l'homme à l'image de Dieu, c'est ce que j'ai dit hier. Et dans le second texte, alors, il y a d'une part cette façon très naïve qui illustre si fortement la vérité en cause de la différence radicale entre les animaux qui ont défilé devant l'homme et puis la femme. Et d'autre part, il y a l'exclamation d'Adam, « Os de mes os, chair de ma chair ». C'est cela, me semble-t-il, qui marque la grande similitude fondamentale. Alors, je crois que c'est à rappeler que c'est la vérité que, d'une manière déformée, les mouvements féministes contemporains essaient de retrouver. D'abord des humains, d'abord partenaires en humanité, l'homme et la femme. D'abord similitude. Ça n'allait pas de soi dans le monde antique, et ça n'a, malgré les déclarations contraires, ça n'a pas toujours de soi aujourd'hui non plus. Et probablement, il y a dans ce qui nous est dit de la prise du côté d'Adam aussi cette signification-là. Signification côte-côté, c'est un jeu de mots, je crois. Ève est pour Adam son alter ego, sa meilleure moitié, comme disent les Anglais, une très jolie formule. Son autre lui-même, vous voyez, l'accent tombe ici sur la similitude. Faut-il prendre ce qui nous est dit là littéralement? La question peut se poser. Il y a des éléments de ce chapitre 2 et 3 que je crois personne ne peut prendre littéralement. L'insufflation par Dieu d'une haleine dans les narines de l'homme, étant donné l'incorporéité de Dieu, je crois que presque tous seront prêts à prendre cet élément-là comme figuratif. Faut-il prendre la formation de la côte comme un élément figuratif ou non? Je crois qu'on peut hésiter. Je tends peu à peu à admettre qu'on peut très bien prendre ce détail figuratif, mais je ne saurais être dogmatique sur ce point-là. C'est surtout à cause du jeu de mots impliqué, qui en cache peut-être d'ailleurs encore un autre. D'après certains commentateurs, il pourrait y avoir là comme un écho d'un jeu de mots en sumérien, où le même mot veut dire côte et vie. Le mot ti, semble-t-il. Et ça intervient dans un récit mythologique, où arrive une dame de la côte qui donne la vie en même temps. Alors comme ici la femme sera nommée vie à la fin, Hawa, parce qu'elle a été la mère de tous les vivants, on peut se demander s'il y a un écho assourdi de ce jeu de mots-là. Alors, à cause de cette présence de jeu de mots, je aurait tendance à penser qu'il s'agit d'un élément donc littéraire, simplement, dans le texte. Mais évidemment, il n'y a pas là de démonstration absolument tranchée. Après, la similitude, c'est, me semble-t-il, le vis-à-vis qu'il faut reconnaître. Il est déjà dans la définition même que Dieu donne de la femme. Aide comme son vis-à-vis, si on traduit tout à fait littéralement. Alors, vous avez diverses traductions. Semblable à lui, il glisse un peu déjà sur une autre idée. Sauf si on pense que le vis-à-vis implique la relation du miroir et qu'ainsi il y a similitude. D'autres disent l'aide qui lui corresponde. Ça, c'est beaucoup plus proche, au fond, de la signification de l'original. Ou aide qui lui soit assortie. Ce qui veut dire la même chose. Ce vis-à-vis me semble impliquer non seulement la similitude, la communauté os de mes os, chair de ma chair, mais aussi, je dirais, la relative indépendance, existence en face de l'homme, d'une autre personne. Pas simplement autrui, abstraitement considéré, bien sûr, je l'ai dit. C'est dans l'ordre de Dieu que cela se passe. Mais d'une autre personne. Pas d'un simple double fantomatique, ou d'un objet d'extension qui serait comme une extension du corps de l'homme, mais oui, une autre destinée éternelle en face de lui, d'un autre cœur qui sera en relation directe avec Dieu, d'une autre personne, pour employer le mot qui est le plus courant aujourd'hui. On peut résumer en disant, Dieu ne donne pas pour femme à l'homme une côte, il l'a construit en femme. Vous avez l'opération de construction qui est mentionnée ici. Il n'y a pas de fusion ou de confusion. Et je suggère que nous avons cela suggéré par l'étrange sommeil d'Adam. Le mot qui est employé ici est un mot très fort. On le traduit profond sommeil, bien que ce soit un mot unique, il n'y a pas d'adjectif, parce que ce n'est pas le mot courant pour sommeil. Il est employé plus tard, dans Genèse 15, pour le sommeil extatique, mystérieux, qui s'est abattu sur Abraham. Et, de façon générale, il s'agit d'un sommeil qui a un caractère de profondeur extrême et souvent surnaturel. Alors, je sais que certains évangéliques ont lu ça en pensant alors à l'anesthésie, en disant « Je travaille comme un chirurgien, il a endormi son patient par une anesthésie suffisante ». Je pense quand même que c'est un peu anachronique comme commentaire. Des pères de l'Église, plusieurs d'entre eux, ont essayé d'interpréter ça allégoriquement et ont vu dans ce sommeil le type de la mort de Jésus-Christ, duquel la nouvelle Ève est tirée par la blessure au côté. C'est une typologie qui me paraît un peu trop hardie, et surtout ce que je lui reproche, c'est qu'elle voit déjà la rédemption dans la création. Il y a un risque là, c'est grave, me semble-t-il, de renverser le rapport biblique. Comme plusieurs tendances théologiques de notre temps ont renversé ce rapport biblique, je résiste. Je crois qu'il y a là danger. Mais cette interprétation a quand même le mérite d'attirer notre attention sur la profondeur de ce sommeil et son caractère étrange. Et alors, sans y voir strictement un rôle, un symbole de mort, il me semble qu'on peut dire que ce sommeil montre en l'homme un être passif, qui ne maîtrise plus la situation, lorsque la femme est tirée de lui et lui est donnée. En quelque sorte, sa vie est ouverte, et ouverte par Dieu lui-même, non pas par une disposition dont l'homme serait maître. Une sorte quand même de mort à lui-même, en tout cas disons de mort à ce qu'il était, précisément en tant que simple individu, seul. Je crois que c'est cela que ce sommeil veut nous évoquer. C'est une mutation pour l'homme. Le fait de recevoir la femme, de n'être plus seul, ne laisse pas l'homme alors intact. L'homme est profondément affecté, c'est la grande crise de sa création, pourrait-on dire. Parce que son existence est ouverte. Et dès lors, il n'est plus le même, et en un sens, il a enterré sa vie de garçon, selon la formule. Donc ce vis-à-vis, je crois que nous avons à le relever avec ce qu'il implique. Troisième point que le texte met en valeur, et surtout Paul dans son commentaire d'un Corinthiens 11 et d'un Timothée 2, ce n'est pas la femme qui a été formée d'abord, mais l'homme, la femme a été tirée de l'homme. Le troisième point, c'est l'existence d'un ordre établi par Dieu entre l'homme et la femme. Dans cette similitude, il y a un ordre. Il ne s'agit pas donc d'une simple juxtaposition. Toute la doctrine de l'homme chef dans le foyer, qui, vous savez, est exposée surtout par l'apôtre Paul, se déduit de tout cela. Alors, comment comprendre? D'abord, quel serait dans le texte de la Genèse, en dehors de l'ordre chronologique, si vous voulez, du récit, quel serait l'élément qui pourrait appuyer cette pensée de l'ordre? Je crois que c'est le fait que c'est à l'homme de nommer sa femme, de nommer la femme, avec le jeu de mots ish-isha aussi, qui souligne la dérivation. Tirée de l'homme, elle s'appelle isha, à partir de l'homme ish. Notez que c'est un jeu de mots, hein, en hébreu, je dis ça pour les hébraïsans. Ce n'est pas une étymologie scientifique, car le mot isha ne vient pas étymologiquement de ish. Mais c'est un jeu de mots, parce que quant aux sonorités, il a l'air d'être le simple féminin de ish. Il y a souvent des jeux de mots comme ça, qui sont pris pour expression de thèmes spirituels, théologiques importants dans l'écriture. Il ne s'agit pas d'étymologie, proprement parler, mais d'un jeu de mots. Et souvent les auteurs bibliques se plaisent à faire ces jeux de mots. Comment comprendre cette présence d'un ordre? Je crois que le texte qu'il faut surtout considérer comme commentaire, c'est 1 Corinthiens 11 à ce propos. Et cette parole, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme, et Dieu est le chef du Christ. Je crois que cette espèce de superposition de plusieurs structures parallèles par Paul nous montre que la présence d'un ordre ne signifie pas inégalité de dignité, de valeur, de gloire, etc. Car précisément, c'est la portée de la doctrine trinitaire qui, je crois, est publique, de souligner que le Fils est avec le Père, participant d'une même gloire, et même autorité. Ainsi, parce que le Fils reçoit tout du Père, tout ce que le Père a est à lui. Ainsi, si le Père est le chef du Christ, ça n'implique aucune inégalité entre eux, et on peut dire que ce qui en est le reflet dans la structure homme-femme, alors n'impliquera pas nécessairement d'inégalité non plus. Paul est soucieux, après avoir souligné l'ordre homme-femme, de dire, cependant, l'homme n'est pas sans la femme, il vient de la femme, tous les hommes, pas Adam, mais tous les autres, il vient de la femme, et tout vient de Dieu. Ce qui, je crois, neutralise l'interprétation inégalitaire. Donc, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre. Je crois qu'il faut comprendre essentiellement le fait qu'il n'y a pas de communauté s'il n'y a pas centre. Une véritable communauté, qui n'est pas une simple fusion indistincte, impliquera la structure d'un organisme avec chef et corps, centration si vous préférez. Pour qu'il y ait union vraiment étroite et vivante, selon le modèle des unions vivantes que Dieu nous donne dans toute sa création, je crois que nous avons à trouver un centre, et que c'est cette structure-là que Dieu a donnée pour le rapport homme-femme. Voilà ce que je vous propose de comprendre. Et puis j'en viens au quatrième point, alors qui devrait être commenté un peu plus longuement. Nous avons parlé de similitude, de vis-à-vis et d'ordre, parce que je crois que le texte nous en parle, mais il nous faut quand même parler à propos de la bisexualité, de la différence. Nous n'avons pas encore parlé. Et ce qui pourrait être dit le propre de la sexualité. Le second chapitre ne la mentionne pas. C'est assez intéressant. Le second chapitre ne la mentionne pas. Peut-être parce que c'est impliqué, il est impliqué davantage dans le troisième chapitre, que nous devons étudier plus tard. Mais le premier, par les termes mêmes qu'il emploie, mâle et femelle, l'implique nettement, donc c'est dans le texte aussi. Ces termes sont, disons, très crus en hébreu, ils impliquent, je dirais, la différence anatomique elle-même, et ainsi, on peut dire que le texte évoque la différence à laquelle nous pensons d'abord, en général, quand nous prononçons le mot de bisexualité. Alors, il s'agit de différences physiques, pas seulement, je crois, dans l'écriture. Sur le fond commun d'humanité, il me semble que l'écriture considère que masculinité et féminité s'étendent à toute la personne. Alors, à propos de cette différence, donc, qui s'étend à toute la personnalité, qui n'est pas toujours très facile à définir, que nous dit le texte? Le premier point sur lequel il faut, je crois, revenir, c'est qu'il s'agit d'une création de Dieu. Dieu a créé hommes et femmes. C'est la création bonne de Dieu. Émile Brunner, théologien non évangélique, mais qui a dit des choses intéressantes, Émile Brunner a une phrase admirable, disant que cette simple petite mention, Dieu a créé l'homme, homme et femme, dans sa simplicité lapidaire, il dissipe tout un monde de miasmes névrotiques, d'égarements gnostiques. Et je crois qu'il a raison. Là, les choses sont mises en place. L'homme naturel tombe soit dans l'adoration, soit dans la terreur du sexe, précisément comme différence. Et on peut dire souvent d'ailleurs même qu'il tombe dans les deux à la fois. Et il n'y a qu'une seule façon pour nous d'être vraiment délivrés, de ces deux abîmes, la reconnaissance d'une disposition divine. C'est quelque chose qui vient du Seigneur et qui ainsi sera lié d'ailleurs au commandement du Seigneur pour que nous en vivions comme il convient. Je crois que nous pouvons affirmer, après cet accent sur la création de Dieu, que c'est précisément la différence homme-femme qui fait de la relation homme-femme la forme fondamentale de relation au prochain. Cette qualification de la relation au prochain, je crois que elle est privilégiée à cause de la différence. C'est un thème que Karl Barth, dans ce commentaire que j'évoquais hier, met fortement en relief. Au fond, c'est la seule différence, je dirais absolue, entre les individus humains. Tout le reste, c'est question de degré, est finalement superficielle. Mais nous sommes soit hommes soit femmes, et là c'est une différence qui ne peut pas s'abolir. Qui signifie quoi au fond? Qui signifie qu'aucun individu humain n'est l'humanité. Qu'aucun individu humain n'est autosuffisant. En tant qu'homme, il est renvoyé vers la femme, en tant que femme, renvoyé vers l'homme. C'est là la portée de cette différence inscrite en nous et qui nous affecte tout entier. Or, c'est cela qui nous rappelle inéluctablement que nous sommes en relation avec un prochain. C'est pour ça que je dis que forme fondamentale de la relation au prochain. Et on peut se demander donc s'il y aurait vraiment plénitude de situation d'image de Dieu relationnelle, en tout cas au plan terrestre, dans la vie de l'homme comme terrien, s'il n'y avait pas donc cette différence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vais le mettre en relief, c'est que tout cela convient très bien au rapport à l'image de Dieu et à la relation au rapport avec Dieu. Car précisément la différence, elle est très importante dans le rapport à Dieu. Le rapport de vis-à-vis de Dieu avec son image terrestre est un rapport dans la différence. Et il me semble qu'on peut dire que la différence homme-femme est là pour rappeler aussi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il est avec Dieu, mais il est différent. Et il ne peut jamais oublier cette différence. Il n'est pas autosuffisant, il a besoin de celui qui est autre. Autre que lui, différent de lui, son Seigneur. Et alors il me semble que là, nous voyons quel est le piège spirituel, et je dirais la profonde perversité spirituelle, de l'idéal de l'androgynie, d'abord. Au fond, l'idéal de l'androgynie, c'est de se passer de Dieu. Au fond, ça. La suffisance d'un individu qui a en lui-même les deux sexes, de telle sorte qu'il n'est pas renvoyé à un autre. C'est au fond la projection symbolique du désir de se passer de Dieu, d'être suffisant par soi pour l'homme. Il n'est pas étonnant qu'on trouve cette androgynie comme un mythe dans tant de religions et de philosophies. Et puis ensuite, alors, je dirais... pardon. Ah, excusez-moi. L'androgynie, donc, ne doit pas se confondre avec l'hermaphroditisme. Il y a là quand même une différence. Certains emploient les mots de la même façon, Mais l'hermaphroditisme, c'est une situation qui existe, hélas, par, je crois, perturbation du péché dans la physiologie même de l'homme, il existe des individus, en quelque sorte, entre les deux sexes, anatomiquement, physiquement, hormonalement. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'hermaphrodisme. C'est une situation d'infirmité pénible entre toutes, certainement, et dont nous pouvons interpréter la présence que, je crois, comme une suite du péché, des perturbations du péché. Mais l'androgynie, c'est autre chose. L'androgynie, c'est une notion, une image forgée par l'homme. C'est l'idée d'un être qui réunirait dans lui-même tout le masculin et tout le féminin, qui serait à la fois homme, aner, andros, et femme, gunae, génie en français. C'est le mot veut dire homme-femme, androgyne. Androgynie, le fait d'être homme et femme à la fois. Alors, vous trouvez ce mythe de l'androgynie dans beaucoup de religions. Platon l'a repris, donc vous le trouvez évoqué dans le Banquet de Platon, et jusque des penseurs contemporains qui l'ont repris. Alors, je dis que nous y avons là l'expression de la volonté, au fond, ultimement, de se passer de Dieu. L'autosuffisance, sans la relation, sans la communication. Et l'autre, la perversion, qui prend un sens spirituel profond dans cette vision, c'est l'homosexualité. L'homosexualité aussi, c'est le refus de cette différence. C'est l'amour d'un semblable qui n'est que semblable. Or cela, je crois que nous pouvons y voir comme une parabole, une réflexion de l'idolâtrie. De même que l'amour hétérosexuel sera réflexion du rapport au vrai Dieu, qui est autre, l'homosexualité sera une parabole, une réflexion de l'idolâtrie, qui s'adresse à la créature au lieu du créateur. Au même créé au lieu du créateur. Et alors ça, c'est pas une pensée que je vous propose de ma propre autorité. À mon avis, c'est le sens de Romains 1. Le développement de Paul dans Romains 1, se comprenne comme ça. Dieu a livré à l'homosexualité les idolâtres. Parce que c'est la suite logique, en quelque sorte. Dieu les a livrés à ce sens réprouvé, ceux qui ont adoré la créature au lieu du créateur. Ont aussi changé l'usage naturel, etc. Troisième. Avant une petite référence bibliographique. Et puis, alors, il y a encore d'autres tendances, et je vous recommande le livre de Jean Brun, La nudité humaine, si vous voulez, alors, quelque chose qui finit par être, d'ailleurs, presque nauséabond, tellement il y a une accumulation, si vous voulez, une analyse de tendances contemporaines, au-delà encore de l'homosexualité, etc., de tendances contemporaines représentant le refus de la différenciation sexuelle. Tendance unisexe, tendance volonté de transgression de toute limite. Il cite des textes absolument ébouriffants et désolants. Mais vous avez là une documentation de première force dans ce livre, donc intitulé La nudité humaine. Le premier livre de Jean Brun, Le retour de Dionysos, que malheureusement je n'ai pas lu, je crois, évoque déjà un certain nombre de ces courants. Mais alors ce livre va encore plus loin, ce livre plus récent que j'ai lu, chez Fayard. Alors, je vous signale. Le troisième point que je mets en relief à propos de cette différence, c'est que la différence de la sexualité s'étendant à la personnalité tout entière est telle que l'union des sexes implique la personne tout entière et que c'est la grande expérience où cœur et corps sont ensemble, indissolublement. Ou en tout cas, si l'on respecte le plan de Dieu, où il y a toujours un reste, une marque sur l'homme intérieur, même dans le cas du comportement de prostitution, que précisément Paul évoque en 1 Corinthiens 6, mais je crois que c'est le propre de cette différenciation, à cause de son caractère fondamental, et je pourrais peut-être pousser l'analyse, mais enfin je ne le fais pas, d'unir cœur et corps. me semble que c'est dans la pensée biblique, et je l'ai déjà dit à Vivier, je crois, que la parole de Paul dans 1 Corinthiens 6, tout autre péché qu'un homme commet est hors de son corps. Son corps n'y sert là que d'instrument, comme on se sert d'un outil, et c'est tout. Mais ce péché-là, le péché de fornication, est un péché contre le corps propre. L'homme pêche contre son propre corps. Le rapport de l'homme à son corps, dans l'accomplissement sexuel, est unique, semble-t-il. L'homme, j'ai pensé à cette formule, dans tous les autres péchés, activités, etc., l'homme a son corps. Mais dans l'union sexuelle, il est son corps. Il y a une union de l'esprit, âme-esprit, et du corps qui est unique là. On pourrait rattacher d'ailleurs ça, à mon avis, au rôle de l'imagination, à la grande proximité de l'imagination et de la sexualité. Parce que l'imagination aussi, si vous voulez, intermédiaire entre le corps et l'esprit. Mais enfin, ça, je vous laisse aussi réfléchir davantage sur ce point. Et qu'est-ce que ça va impliquer cela? Eh bien, je vous suggère une pensée. C'est au fond, dans l'union sexuelle, que nous avons, sur Terre, l'anticipation du paradis. Pour nous, en tout cas, pour qui le paradis premier est perdu. Au fond, notre douleur, cette tension sur laquelle le monde est crucifié pour nous sommes crucifiés au monde, selon Galates 6, notre tension, c'est que l'homme intérieur est régénéré, l'homme intérieur vit de la vie de Dieu, et l'homme extérieur se détruit, n'a pas encore sa rédemption. Il y a comme un hiatus entre l'homme intérieur et l'homme extérieur dans le temps présent. Mais dans un accomplissement selon Dieu, d'une sexualité d'amour, il me semble qu'on peut dire que puisque là, le corps, l'homme extérieur et l'homme intérieur coïncident, nous avons comme une promesse de ce qui sera nôtre dans la résurrection du corps, lorsque le corps spirituel sera parfaitement à l'unisson de l'homme intérieur. Alors, on pourrait dire donc, avec ce raisonnement théologique, que dans l'union belle, il y a comme une image, un reflet anticipateur de cette plénitude, le corps rejoignant l'homme intérieur, de cette plénitude qui nous est promise lors du retour de Jésus-Christ. Alors je souligne accomplissement dans la beauté, dans l'amour, et alors il faut bien sûr que je parle maintenant de l'ordre divin pour cet accomplissement. Là encore, j'ai dit certaines choses à Vivier déjà, et la plupart d'entre vous, vous étiez là, donc je ne vais pas développer beaucoup, mais le texte ici parle de l'institution divine qui est le lieu, et je crois le seul lieu pour lequel Dieu, dans lequel Dieu a prévu que la sexualité s'accomplisse, le mariage. La bisexualité n'est pas le mariage, et je crois que même dans notre texte, nous pouvons marquer la distinction. Il me semble que nous pouvons dire que le moment du mariage, après la création de l'homme et de la femme, c'est le moment où Dieu amène à l'homme cette femme qu'il a formée pour lui. C'est un mouvement distinct. Je crois qu'on peut dire que c'est là que nous logerions ce qu'on appelle l'institution du mariage. En tout cas, vous le savez, le commentaire qui est ajouté, je crois par l'auteur sacré qui parlait au nom de Dieu, de telle sorte que Jésus dit, c'est Dieu qui a dit ça. Le commentaire, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et seront une seule chair, est pris comme la charte de l'institution du mariage, plus tard dans l'Écriture, et par Jésus lui-même, en Matthieu 19, tout spécialement. Je crois que nous avons là le droit et le devoir de trouver dans Genèse 2, donc, l'institution du mariage, à cause de cet usage que font du texte les hommes du Nouveau Testament, et le Seigneur en particulier. Alors, à propos de cette formulation, quelques commentaires encore, en plus de ceux que j'ai pu faire à Vivier. On peut remarquer cette initiative qui est donnée à l'homme dans le texte. L'homme quittera son père et sa mère. Je crois que certains y ont vu la trace d'un matriarcat primitif, mais je crois que c'est assez peu plausible, et que c'est plutôt là une accentuation théologique ou anthropologique. Il s'agit de souligner que dans la différenciation des rôles, les rôles d'initiative et de rupture seront plutôt du côté de l'homme, semble-t-il, pour la pensée biblique. Donc on peut relever ce point, et je crois que très pratiquement, il est utile de se rappeler cette thèse biblique. Les rapports avec belle famille, etc., ils ont toujours leurs problèmes de nos jours comme autrefois. Un second point que l'on peut relever, c'est l'expression « une seule chair ». Le mot « chair » est sans doute employé ici, je le crois fondamentalement, dans un sens très large, comme souvent dans l'Écriture. Cependant, 1 Corinthiens 6 montre que le sens peut être aussi rendu plus étroit pour ne désigner que l'union proprement physique. Je crois qu'en général, la formule désigne le mariage comme union globale, économique aussi bien que physique. Mais dans 1 Corinthiens 6, Paul prend quand même le texte pour le rapporter à la fornication avec une prostituée, donc dans un rapport qui n'est pas global, justement. C'est là qu'il y a péché contre le corps, contre la volonté divine pour le corps, mais le sens restreint peut être utilisé. Qu'est-ce que ça nous montre? Bien, je crois que ça nous montre que dans le mariage, l'union physique est placée au centre, que nous ne devons pas idéaliser et définir le mariage sans noter ce fait. La Bible est, je crois, très réaliste, c'est le propre de l'institution conjugale de permettre l'union physique. Et le mariage n'est pas défini par une seule âme, mais par une seule chair. Matthew Henry, de nouveau, ce commentateur, je crois, a très bien dit la chose. Il a dit « Ils sont une chair, qu'ils deviennent une seule âme » de jeune marié. Devenir une seule âme, c'est la vocation. C'est ce que Dieu veut pour ce rapport de proximité par excellence. Mais ce n'est pas la définition du mariage. C'est un vœu divin pour le mariage. Mais le mariage lui-même sera défini par la licéité de l'union physique comprise dans le cadre d'un engagement réciproque permanent et avec une structure juridique d'alliance qui est évoquée dans quelques autres passages. Le mot n'est pas dans la Genèse, mais il est par exemple en Malachie. Il est question de la femme de ton alliance. Le mariage est donc considéré comme une alliance, un contrat, qui, le texte le montre, a un caractère social, public, et donc est sous l'œil du magistrat, une alliance, mais qui a trait tout spécialement à l'union physique. Comme d'ailleurs Paul aussi nous le rappelle en début d'1 Corinthiens 7, lorsqu'il dit que celui qui a autorité sur le corps de l'homme, sur le corps de la femme, c'est l'homme, et réciproquement. Je crois que ce réalisme biblique est bon et bienfaisant, et qu'il est tout à fait dans la ligne de l'accent sur la création en homme et femme. Alors à propos de ce caractère permanent de l'engagement, il y a bien sûr des problèmes qui surgissent, le problème de l'indissolubilité, du divorce. Je ne vais pas essayer de le traiter maintenant parce que vraiment j'irai au-delà du texte. Je crois que cette indissolubilité est un vœu divin, n'est pas quelque chose de physique qui s'attache à l'état de mariage de telle sorte qu'ensuite jamais le lien ne soit rompu. S'il est rompu un jour, c'est qu'il y aura eu péché. Et ce n'est pas le vœu de Dieu. Mais je crois qu'hélas, il pourra être rompu. Certains cas que Jésus prévoit d'ailleurs dans son commentaire. Mais je laisse cette discussion peut-être à l'entretien si vous le souhaitez, ou alors à des conversations personnelles ou à vos propres recherches. Le texte de Genèse 2, parlant du mariage, après avoir parlé de la polarité homme-femme, ne dit pas un mot des enfants. C'est un point qui peut surprendre, étant donné la doctrine traditionnelle du mariage, dans la tradition chrétienne en particulier. Peut-être est-ce parce que le chapitre 2 va avec le chapitre 3 et qu'il y a une évocation des enfants au chapitre 3, après la chute. Cependant, il me semble que cette absence de toute mention, que l'on retrouve d'ailleurs dans Éphésiens 5, Paul ne dit rien non plus des enfants, dans ce passage à l'homme et à la femme. Après, il y a la relation parent-enfant qui des commandements, mais rien dans le passage sur l'homme et la femme, me semble autoriser le refus de la thèse traditionnelle selon laquelle la procréation des enfants est la fin du mariage, et peut-être même une fin du mariage. Il ne semble pas que ce soit la doctrine biblique. C'est la doctrine qui a trouvé place dans la tradition catholique, vous le savez, avec cette pensée présente indéniablement que le sexe est particulièrement entaché de péché et que la seule chose qui peut au fond le racheter, c'est qu'il est indispensable à la procréation. Et la seule chose qui peut autoriser l'union, c'est finalement qu'il faut avoir des enfants. Je crois que cette pensée-là n'est pas dans le texte. C'est très frappant que Genèse 2 n'en parle pas du tout. Et ça a des conséquences, bien sûr, par exemple, pour l'éthique de la contraception. Si la procréation était la fin du mariage, alors il me semble que nous ne pourrions pas admettre en aucun cas de procédé contraceptif. Mais ça ne me paraît pas le cas dans la situation de ce passage de Genèse 2. Cependant, c'est par là que je dois terminer, le premier chapitre évoque la fécondité. Et non pas en la présentant comme une fin du mariage, ou même de la création de l'humanité en homme et femme, mais comme une bénédiction que Dieu ajoute. Bénédiction, fructifiée, multipliée. Et il me semble que si nous devons éviter de faire de la procréation la fin du mariage comme tel, nous devons aussi, pour être dans la pensée biblique, apprécier la bénédiction, voir toute la gloire bouleversante finalement qu'il y a dans ce privilège de la fécondité, qui sera lié au mariage, puisqu'à l'union sexuelle, etc. C'est finalement quelque chose d'incroyable que le Seigneur ait laissé à l'homme et à la femme, et surtout à la femme. C'est là la gloire, tout spécialement qu'il lui revient, de mettre au monde, de former, d'acquérir, avec son aide, c'est le début de Genèse 4, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel, laisse à l'homme et à la femme d'acquérir, de produire un être créé en image de Dieu, une image de Dieu vivante, avec une destinée éternelle. Quelqu'un qui sera fait pour le dialogue avec Dieu, créé de peu inférieur à Dieu, selon le psaume 8. Mais quand on y pense, c'est prodigieux que Dieu ait laissé ce privilège à sa créature, et qu'il lui ait laissé encore après sa chute. Ça, nous en reparlerons. Nous devons vraiment louer le Seigneur pour ce don qui vient couronner toute la bonté de son œuvre très bonne. Voilà ce que je voulais dire.